Pendant qu'on vérifie l'acoustique, j'en profite. Je n'ai jamais eu autant d'occasions de ce genre en une seule période de temps à l'approche de la rentrée, de vous remercier pour vos prières, pour les inscriptions pour l'Institut biblique de Bruxelles. J'ai dit la semaine passée 10, peut-être 11, et maintenant plutôt une douzaine. Encore merci pour vos prières. Notre rentrée a lieu demain. Est-ce que ça, je présuppose que tout le monde entend bien? Excellent. On continue donc dans la thématique du week-end. Je voudrais avoir tort, mais je crains que non. Je voudrais avoir tort en pensant ceci. La plupart des protestants évangéliques dans nos milieux ont une mentalité catholique, la plupart du temps. La plupart des protestants évangéliques dans nos milieux ont une mentalité catholique, la plupart du temps. Et même si toi, tu n'es pas dans cette catégorie, tu es concerné par un combat dans ce domaine. Il y a un sacré combat qui devrait se livrer chez nous au niveau de la pensée. C'est le combat pour avoir une mentalité façonnée par l'Évangile. Une mentalité façonnée par l'Évangile donne lieu à une vie façonnée par l'Évangile. Mon but, ma prière, c'est que nous mettions tout en œuvre pour nous débarrasser de notre mentalité catholique. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te glorifions pour l'Évangile. Nous parlons des péchés en Jésus-Christ, pour la justice du Christ dont nous sommes revêtus par pure grâce, comme nous l'avons vu ce week-end. Nous te glorifions aussi pour ta parole puissante qui expose ces réalités grandioses. Et nous te demandons d'œuvrer par cette parole maintenant pour que nous menions le combat pour avoir une mentalité façonnée par l'Évangile. Et cela à ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen. Nous l'avons vu ce week-end avec Robbie, nous sommes sauvés de l'enfer uniquement en plaçant notre confiance en Jésus-Christ. Nos propres efforts n'y contribuent rien. Nous sommes prononcés justes, justifiés uniquement par la foi. Et comme on a pu le constater là avec Philippe, tout à l'heure, les enfants, vos enfants, vous l'avez compris également, sola fide, par la foi seule, c'est l'Évangile. Être convaincu de cela dans son fort intérieur, au point de vivre cela, c'est le combat. Même les plus grands champions du protestantisme ont dû être engagés dans ce combat. On a largement entendu parler de Martin Luther ce week-end. Écoutez Martin Luther à ce sujet. Je sais combien de fois il m'arrive de perdre de vue les rayons de lumière de l'Évangile et de la grâce. Alors que dans ce présent combat, nous devons recourir à l'Évangile qui est parole de grâce, de consolation et de vie. Voici que la loi, parole de colère, de tristesse et de mort, prévient l'Évangile et se met à s'agiter bruyamment. Luther parle même d'oublier entièrement tout ce qui touche à la justification, à la grâce, à Christ et à l'Évangile. Fin de citation. La loi pouvait prendre le pas sur l'Évangile, même pour Luther. Il pouvait vivre comme si l'Évangile n'existait pas. A fortiori, nous, n'est-ce pas? Voici le combat de la rentrée. Nous débarrasser constamment d'une mentalité catholique pour adopter une mentalité protestante évangélique façonnée par l'évangile de Jésus-Christ. C'est ce à quoi notre passage dans Galates 3 nous exhorte. Nous allons passer la majeure partie du temps à considérer la pointe du combat à partir du verset 6. Mais d'abord, qu'est-ce qui est en cause? Donc, si tu suis le plan, l'enjeu du combat dans les versets 1 à 5, qu'est-ce qui est en cause? Eh bien, l'enjeu du combat, c'est justement notre vie chrétienne au jour le jour. Et le problème, ce n'est pas notre compréhension de comment on entre en bonne relation avec Dieu, comment on devient chrétien. Généralement, dans nos milieux, nous avons bien compris comment nous commençons la vie chrétienne. On tourne le dos au péché, on se tourne vers Dieu, on reçoit le cadeau. On se souvient, cadeau, non pas médaille. Le pardon de nos fautes. Le Saint-Esprit entre dans notre vie, nous tourne vers Dieu, nous donne de nous attacher à Jésus-Christ. Nous entrons donc en bonne relation avec Dieu. La vie chrétienne a commencé pour nous. C'est glorieux. Mais comment est-ce que la vie chrétienne continue? Voici comment on réfléchit trop souvent. Oui, je suis pardonné, mais comment est-ce que je vais pouvoir me maintenir dans cet état de pardon? Je suis en règle avec Dieu, mais je dois maintenant faire un effort pour rester en bonne relation avec Dieu, y compris et notamment en vue du jour du jugement. Il faudrait que je prouve que je suis un chrétien sincère. Ce que je dois faire maintenant, c'est aller à l'église, lire ma Bible, prier, annoncer l'évangile autour de moi, acheter des livres à la librairie, aider mon frère avec son déménagement, aider avec le barbecue, encourager ma sœur qui est découragée. Et à ce moment-là, je peux savoir que je suis sur la bonne voie, que je suis un bon chrétien ou une bonne chrétienne, que je n'aurai rien à craindre lors du jour du jugement. Et l'apôtre Paul nous dit, verset 1er, « Stupide !» Stupide ! Fasciné ! Ensorcelé ! Complètement faux ! Regardez le verset 3. Êtes-vous donc stupide à ce point? Après avoir commencé par l'esprit, allez-vous maintenant achever par la chair? C'est quoi cette histoire de se maintenir en règle avec Dieu? Si je suis en règle avec Dieu aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'ai pu suffisamment impressionner Dieu, Steve, les anciens, mes frères et sœurs. La façon dont je poursuis dans la vie chrétienne est identique à la façon dont je commence la vie chrétienne. C'est en croyant en Jésus-Christ seul, en recevant le cadeau, pas la médaille, le cadeau. Il y avait des faux enseignants qui rôdaient parmi les chrétiens galates. Ils étaient vraisemblablement en train de dire à peu près ceci. Roger, Manon, c'est fantastique que tu te sois converti, et c'est par grâce. Mais maintenant que tu as pris l'engagement, tu ne voudrais pas aller jusqu'au bout? Dieu s'attend à ce que tu sois sérieux, sérieux dans ton engagement. Je sais que tu l'es. Il est normal que Dieu s'attende à ce que tu respectes sa loi quand même. Et à ce moment-là, tu sauras que tu es sur la bonne voie en vue du jour du jugement. C'est ce qu'on peut appeler aujourd'hui un raisonnement catholique. Pour qu'on finisse par être acceptable devant Dieu, on doit travailler pour gagner sa médaille. C'est ce que cette lettre qualifie d'esclavage. Esclavage. Les faux enseignants sont en passe d'asservir les croyants, de les rendre esclaves. Difficile de connaître la joie de la vie chrétienne lorsqu'on est dans cet axe de vouloir prouver qu'on est à la hauteur alors qu'on ne l'est pas. À un moment donné, Paul pose la question aux Galates. Où est passé votre bonheur? Je pense à une sœur dans une autre église qui a été frustrée par le fait de ne pas avoir un ministère reconnu. Ça, c'est une sœur qui perd sa joie, qui doit mener à nouveau le combat pour réfléchir comme une protestante évangélique. Dieu sourit à notre égard parce que nous sommes en Christ, par pure grâce, par la foi seule. Et notre valeur vient de là, non de nos actions, de notre piété, de notre service. Dans mes enseignements sur cette lettre aux Galates, j'en suis venu à utiliser deux mots pour résumer ce qui est en cause. Deux mots, blaise et démenti. Vous aurez plus à ce sujet dans l'article auquel vous pourrez accéder grâce au code QR. Sur le plan, et les enfants doivent faire attention à cet endroit si j'ai bien compris. Blaise, B comme bonheur, L comme libération, A comme assurance, I comme identité, S comme sécurité, E comme estime de soi. C'est ce qu'on connaît. Ce qu'on vit normalement en Christ, si l'on est un croyant en bonne santé. Sinon, on risque d'être l'inverse, à savoir un chrétien démenti, D comme découragé, E comme ébranlé, M comme mal à l'aise, E comme esclave, N comme nombriliste, quelqu'un qui regarde son nombril, T comme timoré ou craintif ou peureux, I comme insécurisé. Un catholique cohérent ne saurait pas connaître la vie chrétienne blaise, car il n'a jamais reçu le cadeau du pardon de ses fautes. Il est constamment en train d'essayer d'être à la hauteur, mais sans jamais y arriver. Et nous, on risque de vivre comme cela aussi au jour le jour. Et ce n'est pas à la gloire de Dieu, parce que cela diminue ce que Jésus-Christ a fait pour nous en mourant à notre place sur la croix. Voyons cela ensemble, notre second grand point, l'objet du combat à partir du verset 6. Voici notre mandat, notre mission. On le trouve dans le verset 7. Croire que ce sont ceux qui relèvent de la foi qui sont fils d'Abraham. Reconnaissez-le, vous voyez verset 7, reconnaissez-le. Voici le message dont s'imprégner, le message qu'il faut se rappeler dès le moment de sortir du lit. Ce sont ceux qui relèvent de la foi qui sont fils d'Abraham. Nous devons nous arrêter sur le sens de ce texte. D'abord, qui sont les fils d'Abraham? Fils d'Abraham, cela exclut les personnes qui ne sont pas de la lignée biologique d'Abraham, ceux qui ne sont pas juifs. Au contraire, cette lettre est écrite à des personnes d'origine non-juive. Et Paul est sur le point d'expliquer que les non-juifs peuvent être fils d'Abraham. Fils d'Abraham, on pourrait croire que cela exclut les filles, les femmes, ce n'est pas le cas. Dans un autre texte, Paul précise « fils et filles ». Et le mot « fils » est privilégié parce que c'est le fils qui était l'héritier. Et dans Galates, il y a bien des bénédictions dont on peut être l'héritier. Et justement, parlons de ces bénédictions. Question. Qu'est-ce que cela veut dire d'être béni dans la perspective du Nouveau Testament? Fondamentalement. Nous avons tendance à utiliser cette expression pour parler de privilèges dans notre vie, n'est-ce pas? Wow, tu es un Madame Champion comme titulaire cette année. Oh, tu es vraiment béni. Wow, tu as une belle voiture. Tu es vraiment béni. Vous avez deux chiens à la maison? Vous êtes béni. Voyons comment Paul parle de l'idée d'être béni dans un sens beaucoup plus profond que cela. Je vais lire à partir du verset 8. Ainsi, Abraham crut Dieu et cela lui fut compté comme justice. Reconnaissez-le donc, ce sont ceux qui relèvent de la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, voyant d'avance que Dieu justifierait les non-juifs en vertu de la foi, d'avance annonçait cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui relèvent de la foi sont bénis avec Abraham, l'homme de foi. Verset 13. Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois », afin que pour les non-juifs, la bénédiction d'Abraham soit en Jésus-Christ et que par la foi, nous recevions l'Esprit promis. C'est quoi la bénédiction? C'est être justifié, considéré juste, déclaré parfait. Cela veut dire éviter, on vient de lire, la malédiction qui aurait dû être notre sort lors du jour du jugement, la condamnation, l'enfer. Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, la malédiction est tombée sur lui au lieu de tomber sur nous, nous qui sommes en Christ. C'est la bonne nouvelle, verset 8. L'Évangile, la bénédiction la plus extraordinaire qui soit. Je suis un enfant d'Abraham et donc Dieu le Père me prononce juste. Dieu le Fils a reçu la malédiction à ma place. Dieu le Saint-Esprit habite en moi. Je ne suis pas tout à fait Seigneur. Je m'adresse à des personnes qui sont un peu plus âgées que moi, les seniors et les personnes juste en dessous de seniors aussi. Ma génération est au-dessus. Il ne faudrait pas lever la main. Mais fais-moi juste un petit clin d'œil discret. Si tu ne sais pas ce qu'est Strava. Strava, je regarde les personnes de ma génération et au-dessus et je ne vois pas beaucoup de clins d'œil discrets, ce qui peut être plutôt, je ne sais pas si c'est bon signe, peut-être. Alors, mais juste pour le cas où il y aurait eu quelqu'un là qui était en train de, et que je n'ai pas vu, on va demander à quelqu'un qui a moins de 15 ans de nous dire ce qu'est Strava. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont moins de 15 ans qui savent ce qu'est Strava? Non, personne, on va augmenter. Oui, alors, tu peux nous expliquer, Marc?
C'est une application pour courir.
Une application pour courir. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont les kudos dans Strava? Sinon, il va falloir qu'on se tourne vers quelqu'un de supérieur en âge. Qui a moins de 17 ans peut expliquer ce qu'est un kudos ou des kudos dans le contexte de Strava, cette application pour courir? Personne. Personne. Dans ce cas, il va falloir que je me tourne vers Sam Prové au fond, qui a le malheur de me donner des kudos de temps en temps. Vas-y, c'est quoi?
C'est comme des lives pour encourager quelqu'un.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, lorsque je vois sur Strava le rythme que fait Sam Prové sur 20 km, je suis admiratif. L'allure de Sam Prové sur 20 km, je n'arrive que rarement à la faire sur un seul kilomètre. Lorsque je suis en train de tout donner, toutes les conditions sont réunies, etc. Imaginons que la performance de Sam sur 20 km me soit attribuée sur Strava. Ce serait une erreur. Je n'ai jamais couru 20 km. Loin s'en faut. Encore moins au rythme de Sam. Mais, grâce à la mort de Jésus-Christ sur la croix, la performance parfaite de Jésus-Christ m'est attribuée. Sa vie parfaite compte pour moi et ce n'est pas injuste, ce n'est pas faux. La raison, on l'a vu en long et en large hier avec Robbie et Calvin et la Bible, parce que je suis en Christ, grâce au Saint-Esprit, verset 14, je suis rattaché au Christ, greffé en lui, incorporé en lui, uni à lui, un avec lui, une seule chair avec lui. Je vous renvoie aussi à l'excellente prédication de Benjamin Hagen à ce sujet de l'union avec le Christ, prédication qu'il a apportée ici même il y a 2 semaines. Mais pourquoi est-ce que tout cela voudrait dire que j'ai Abraham dans mon arbre généalogique? Pourquoi fils d'Abraham? Le verset 6. Ainsi Abraham crut Dieu et cela lui fut compté comme justice. Nous sommes fils d'Abraham si nous avons la foi comme Abraham. Et cela nous amène à l'autre partie qu'il faudrait comprendre. Ce sont ceux qui relèvent de la foi qui sont fils d'Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire, ceux qui relèvent de la foi? Eh bien, ça veut dire ceux qui sont dans le camp foi. Il faut choisir son camp, le camp foi ou le camp œuvre. On comprend l'idée d'être dans un camp, n'est-ce pas? Les réformes de l'enseignement proposées par la ministre Valérie Glatigny, il y a le camp de ceux qui sont pour et le camp de ceux qui sont contre. Mais là, certains diraient peut-être qu'ils sont un peu entre les deux. Dans le domaine de la foi et des œuvres, il n'est pas possible d'être dans les deux camps. Écoutez Jean Calvin. Il est plus facile de conjoindre l'eau avec le feu plus facile de conjoindre l'eau avec le feu que de faire accorder ces deux choses, à savoir que les hommes soient justifiés par la foi et par la loi. Si l'on pense être dans les deux camps, foi et œuvre, on est forcément dans le camp des œuvres. Parce que le camp de la foi, c'est la foi seule. Et les Wallukids sont bien au taquet pour cela. Sola fide par la foi seule. Les faux enseignants disaient vraisemblablement aux Galates, « Si vous voulez être prononcé juste lors du jour du jugement, il faudra respecter la loi de Moïse entre-temps. » Paul répond, « Non, reconnaissez-le, ce sont ceux qui relèvent de la foi qui sont fils d'Abraham, donc justifiés, et qui évitent la malédiction lors du jour du jugement. Ceux qui relèvent de la foi. » Cela n'a rien à voir avec la loi. Il n'y avait même pas la loi à l'époque d'Abraham. Abraham était avant Moïse, vous voyez. Pareil aujourd'hui, notre standing devant Dieu lors du jour du jugement, si cela dépendait de la loi de Moïse, ou de la loi de la conscience, ou de nos œuvres, de notre performance, ce serait dramatique. Verset 10, « Tous ceux, en effet, qui relèvent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit soit quiconque ne persévère pas en tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le faire. » Et vous avez remarqué le mot « persévérer » là, dans le verset 10. Il faudrait être capable de respecter toute la loi, tout le temps. Vivre parfaitement aux yeux de Dieu, rien que pendant une heure, et on n'y arrive pas. Aimer Dieu de toutes ses forces, aimer son prochain comme soi-même, c'est comme me demander le record mondial du marathon maintenant. Que personne ne soit justifié devant Dieu par la loi, c'est évident. Je suis juste en train de lire le verset 11. C'est évident. Verset 11. Mais si l'on est dans le camp foi, c'est une autre paire de manches. Parce qu'à ce moment-là, je suis en Christ. Et la performance du Christ m'est attribuée. Et donc si toi, tu n'es pas encore dans le camp foi, le moment de changer de camp, c'est maintenant. Car tu ne voudrais pas connaître la malédiction lors du jour du jugement. Viens me voir après, ou voir Steve, ou Jean, ou Philippe, ou un autre responsable. Si tu ne t'es jamais détourné de tes fautes et tourné vers Dieu pour recevoir le cadeau. Il y a quelques semaines, nous étions dans une église en France et une femme qui exerce des responsabilités au sein de cette église a essayé de nous persuader qu'il ne faudrait pas critiquer le catholicisme devant les catholiques. Et je comprends que le but n'est pas de critiquer pour critiquer, ni de critiquer des personnes en particulier. Mais les catholiques sont dans le camp œuvre. Ils essayent de se hisser à un niveau qui est inatteignable. Ils ont besoin de changer de camp pour éviter la malédiction et connaître la justification. Reconnaissez-le. Ce sont ceux qui relèvent de la foi qui sont fils d'Abraham. Donc bénis avec Abraham, l'homme de foi. Lorsque j'habitais en Australie, mon pasteur avait à cœur d'être clair sur le fait que le catholicisme n'est pas la bonne nouvelle. Et il y avait des croyants qui lui signalaient que ce n'était pas bien qu'ils critiquent les catholiques. Mon pasteur répondait, « Lorsque je m'exprime avec clarté à propos du vrai évangile et que j'explique que le catholicisme n'est pas le vrai évangile, deux choses se passent. D'abord, des chrétiens me critiquent. Et ensuite, des catholiques deviennent de vrais croyants en Jésus-Christ. Écoutez Luther. Il nous faut confesser la vérité et dire que la papauté est maudite. Car d'après Paul, tout ce qui est en dehors de la promesse et de la foi d'Abraham est maudit. Mais il n'est pas nécessaire d'être catholique pour glisser dans le camp des œuvres, dans notre mentalité. Une mentalité catholique nous guette toutes et tous, et ça va être une lutte constante pour adopter une mentalité façonnée par le vrai évangile. Une mentalité façonnée par l'évangile qui donne lieu à une vie façonnée par l'évangile. Par nature, nous sommes câblés pour vouloir être dans le camp des œuvres, vouloir contribuer à notre salut, vouloir gagner notre médaille, vouloir prouver que nous sommes à la hauteur alors que nous ne le sommes pas. C'est un peu comme le micro, cette histoire d'être câblé. C'est un peu comme le micro de mon ordinateur qui s'éteint lorsque je veux parler avec quelqu'un via WhatsApp Web. J'appuie dessus pour allumer et deux secondes plus tard, d'office, s'éteint. Et on est comme ça, on risque de revenir vers les œuvres tellement rapidement. Ce combat au niveau de la pensée, c'est le combat de tous les jours. Voici le message dont nous imprégner dès le moment du sortir du lit. Reconnaissez-le, ce sont ceux qui relèvent de la foi qui sont fils d'Abraham. Que cela puisse imprégner tout mon être. Ce sont ceux qui relèvent de la foi qui sont fils d'Abraham. Profondément bénis en Christ. Et si tu ne connais pas beaucoup de joie dans la vie chrétienne au jour le jour, est-ce que c'est parce que la plupart du temps tu as une mentalité catholique? Si tu réagis mal lorsque quelqu'un te critique, est-ce que c'est parce que tu ressens le besoin de prouver quelque chose à quelqu'un? Lorsqu'on utilise Strava, on peut enregistrer ses performances sur Strava. Et des personnes peuvent voir ses performances et donner des kudos. C'est-à-dire, bravo, sois encouragé. Peut-être que tu n'utilises pas Strava. C'est plutôt les emojis cœur sur ton compte Instagram. Ou les compliments de tes amis à l'école ou tes collègues au travail. C'est ça que tu recherches peut-être plutôt. Si nous sommes à la recherche de kudos, d'approbation, de compliments, dans notre vie en général, on doit retrouver rapidement le camp foi. Ce sont ceux qui relèvent de la foi qui sont fils d'Abraham, profondément bénis en Christ. Et donc, demain matin, le réveil sonne. Je me dis, je vais lire ma Bible. Sinon, je ne serai pas un bon croyant. Ou bien, je vais lire ma Bible parce que les meilleurs croyants comme moi font ça depuis le début de la vie chrétienne. Non. Réessayons. Demain matin, le réveil sonne. Je me dis, je vais lire ma Bible. Qu'est-ce que je suis fatigué? Je ne suis pas spécialement motivé pour lire ma Bible. Mais attends, je suis en Christ, profondément béni, en règle avec Dieu par la foi seule. Dieu me sourit. Combien ça c'est libérateur et réjouissant. Oui, il y a beaucoup de sujets de pression dans ma vie. Mais j'aspire à mener ce combat pour rester dans le camp foi. Le combat pour que l'Évangile détermine ma pensée et ma vie. Et donc, oui, je vais lire ma Bible et nourrir ma joie en Christ. Amen.